Vous écoutez France Culture.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
L'État islamique.
La France est attendue pour éviter une catastrophe.
Il n'y a pas que la dictature, le chaos et la violence. Il y a la liberté, la démocratie, le vivre ensemble, la paix.
Bonjour et bienvenue sur France Culture. Nous sommes en direct tous les samedis du mois d'août de 12h40 à 14h pour décrypter les grands thèmes de l'actualité internationale avec des experts et des journalistes. Aujourd'hui, nous parlerons de l'accord sur le nucléaire iranien signé le 14 juillet dernier et dont l'application est menacée à Washington par les députés républicains qui pourraient décider de le bloquer au Congrès et à Téhéran par l'aile dure du régime. Puis nous nous intéresserons à la situation en Ukraine, où les combats entre l'armée ukrainienne et les séparatistes soutenus par la Russie ont repris après une pause de quelques semaines. Mais avant toute chose, retrouvons Antoine Dulster et sa revue de presse internationale. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour Isabelle.
Une revue de presse qui nous emmène d'abord à Ankara.
Oui, la décision a été annoncée hier. Les Turcs devront réélire leurs députés. Ce sera le 1er novembre prochain. Soit 6 mois jour pour jour après les législatives du mois de juin, qui avaient vu l'AKP perdre sa majorité absolue pour la première fois depuis 13 ans. Depuis, les élus n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un gouvernement de coalition, le président turc Recep Tayyip Erdogan.
Le pays va aller aux urnes pour des élections anticipées, a-t-il dit. D'ici là, une personnalité se verra confier la responsabilité de former un gouvernement intérimaire avec des représentants des partis qui siègent au Parlement et, si nécessaire, des personnes extérieures au Parlement. Si Dieu le veut, le 1er novembre, la Turquie va revoter pour de nouvelles élections législatives.
Et la presse turque et internationale s'interroge. Le président Erdogan avait-il le droit d'annoncer lui-même la tenue de ces élections anticipées? En principe, c'est une prérogative du Parlement, mais Recep Tayyip Erdogan assume et anticipe même son objectif politique, transformer la Constitution pour faire de la Turquie un authentique régime présidentiel avec des pouvoirs étendus pour le chef de l'État. L'ennemi numéro un de l'AKP est déjà désigné pour ses prochaines élections, c'est le parti pro-kurde HDP avec ses 80 députés, une formation que Recep Tayyip Erdogan traite publiquement de terroriste en l'associant au PKK. Dans le sud-est du pays, les frappes de l'armée contre les combattants du PKK justement se poursuivent. Elles auraient fait, d'après le gouvernement, 771 victimes depuis un mois.
Vous, avec votre vote, vous allez devoir décider si nous avons représenté le pays de manière légitime lorsque nous avons effectué les négociations avec nos créanciers. Vous, avec votre vote, vous allez juger si l'accord fournit les bonnes conditions pour surmonter l'impasse et pour contribuer à relancer l'économie, et si cet accord nous aide à mettre fin aux mesures d'austérité.
Oui, donc c'était la voix d'Alexis Tsipras que les auditeurs ont reconnu. C'était donc à propos d'une autre crise politique qui secoue le voisin de la Turquie, la Grèce, puisque les électeurs grecs sont appelés aussi à revoter. Le Premier ministre a annoncé sa démission ce jeudi et il a donné aux Grecs les raisons de ces nouvelles élections. Un vote qui est donc déjà annoncé comme une réplique du référendum du 5 juillet dernier. Par plus de 61%, les électeurs avaient dit non aux conditions de la Troïka pour le financement de la dette grecque. Mais Alexis Tsipras avait dû accepter un accord à l'arraché pour éviter le Grexit, une trahison pour les durs de son camp qui font aujourd'hui sécession de Syriza. 25 députés du Parlement actuel et un nouveau parti, Unité Populaire, qui présentera des candidats contre le gouvernement. L'élection en forme de nouveau coup de poker d'Alexis Tsipras aura lieu le 20 septembre. En Syrie, colère et condamnation unanime après le nouvel acte barbare du groupe État islamique. Les djihadistes ont décapité l'ancien directeur du site antique de Palmyre, Khaled al-Assad, avant d'exhiber son corps dans la ville. L'archéologue aurait refusé de dévoiler l'endroit où des vestiges de la cité avaient été cachés. Il n'avait pas voulu quitter Palmyre au moment de sa chute en mai dernier. Le témoignage de son collègue, Mamoun Abdulkarim, depuis Damas.
Son ancien collègue à Damas raconte qu'il l'a supplié de quitter la ville, mais qu'il a refusé. Il disait « Je suis de Palmyre et j'y resterai même s'ils doivent me tuer », rapporte-t-il.
Et plus de 220 000 personnes sont mortes en Syrie depuis le début de la guerre. Au-delà de ce bilan humain, ce sont plus de 300 sites archéologiques qui ont été endommagés ou détruits.
En Chine, 10 jours après l'explosion de Tianjin, la stupeur a laissé la place à la colère des habitants.
Oui, on sait déjà qu'il s'agit de la pire catastrophe industrielle de l'histoire chinoise. 116 victimes recensées pour l'instant. Des milliers d'habitants attendent toujours d'être relogés par les autorités.
Nous vivons tous dans ce complexe résidentiel. Vous saviez-vous qu'il y avait des produits dangereux stockés près de chez nous? Personne ne nous l'a dit. Et vous, quelqu'un vous l'a dit? Nous ne savions pas.
Jusqu'à maintenant, les autorités ne nous ont donné aucune information. Ils ne nous prêtent aucune attention. Je suis désespérée.
Et au-delà de ces demandes de logement, une question reste posée. Comment 700 tonnes de cyanure de sodium ont-elles pu être stockées à moins d'un kilomètre d'une zone habitée? La corruption des autorités locales est dénoncée par les internautes et les journalistes, tout comme le contrôle du gouvernement chinois sur l'information. Réseaux sociaux surveillés, articles et publications supprimés, alors que les conséquences sanitaires sur le long terme de la catastrophe sont encore inconnues. Au Brésil, cette fois, la présidente Dilma Rousseff est confrontée à la défiance grandissante de la rue, ou plus exactement, de l'opposition.
Il y a un grand manque de respect pour le Brésilien qui travaille. Parce qu'on est un pays riche, on a beaucoup de choses, et avec ces gens qui nous volent, on n'en peut plus. Il faut virer le parti des travailleurs, Dilma Rousseff, Lula, cette mafia, on n'en peut plus.
Voilà donc au cri de « Fora pété », dehors le parti des travailleurs, les manifestants demandent rien moins que la destitution de Dilma Rousseff. À l'origine de ce mouvement social, l'opposition de droite et son leader Aécio Neves, ils dénoncent les scandales à répétition, dont l'affaire Petrobras, qui met en cause le pouvoir. Mais la récession économique et les mesures d'austérité du gouvernement ont grossi le cortège des mécontents. Les éditorialistes de la presse d'opposition n'hésitent plus aujourd'hui à parler de la fin de l'ère PT entamée avec Lula au Brésil. Le 16 août dernier, les manifestations ont rassemblé plus d'un million de personnes dans tout le pays.
Merci Antoine, nous vous retrouverons tout à l'heure pour le portrait de la semaine. Après 12 ans d'intenses et laborieuses négociations, les grandes puissances et l'Iran ont finalement mis fin, le 14 juillet dernier, aux différends qui les opposaient sur le programme nucléaire de la République islamique et réglé, au moins pour le moment, l'une des plus graves crises de prolifération. Accord historique pour les uns, capitulation pour les autres, cet accord est le fruit d'un compromis. Il a permis d'éviter de dangereuses frappes aériennes contre les installations iraniennes, mais s'il gèle le programme atomique iranien pendant 10 ans, il ne le fait pas disparaître. Défaite ou victoire, il faudra sans doute des années pour que l'histoire puisse en juger. Mais en attendant, cet accord est aujourd'hui en danger. Une intense guerre de lobbying a lieu en ce moment au Congrès américain qui doit voter pour ou contre le texte le 15 septembre prochain. Barack Obama multiplie les coups de téléphone personnels aux députés démocrates pour obtenir leur soutien. En face, les républicains soutenus par des groupes israéliens tentent de rallier les indécis à leur cause. À Téhéran, la même lutte oppose les partisans du président Rouhani et du ministre des Affaires étrangères Zarif aux ultraconservateurs. Que se passera-t-il si l'accord est refusé par le Congrès? La guerre, comme le redoute Barack Obama, ou de nouvelles négociations menant à un accord meilleur, comme l'espèrent certains? Que se repassera-t-il également dans 10 ans si l'accord est voté par le Congrès, une fois que la plupart des contraintes sur le programme nucléaire auront été levées? Plus généralement, quel type de conséquences l'accord sur le nucléaire iranien, qui laisse entrevoir la possibilité d'une normalisation des relations entre l'Occident et l'Iran, peut-il avoir à court et à moyen terme sur les crises du Moyen-Orient? Avec nous, pour en débattre, Camille Grand, vous dirigez la Fondation pour la Recherche Stratégique et vous avez suivi les négociations sur le nucléaire iranien depuis leur début. Bonjour.
Bonjour.
François Hesbourg, vous êtes président de l'International Institute for Strategic Studies de Londres et du Centre de politique de sécurité de Genève. Vous êtes aussi spécialiste des questions de prolifération. Bonjour.
Bonjour.
Sami Cohen, vous êtes directeur de recherche et enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions de politique étrangère. Et vous suivez de près notamment les affaires israéliennes. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Camille Grand, au moment du dénouement de la crise en juillet dernier, vous aviez estimé dans un quotidien français que cet accord était nécessaire, imparfait et vulnérable. En quoi précisément, aujourd'hui encore, est-il imparfait, vulnérable et nécessaire ?
Il est nécessaire parce que c'est la meilleure solution qu'on avait à l'heure, au moment où la négociation s'est dénouée, pour enrayer le processus de prolifération en Iran. Les alternatives existaient, bien sûr. On pouvait faire le pari du maintien des sanctions indéfiniment. On pouvait, certains en ont rêvé, imaginer une solution militaire. Mais il me semble que la solution négociée à cette crise iranienne était la solution préférable dans le champ du possible de cette crise nucléaire. Et de ce point de vue-là, l'accord est un accord robuste, un accord très complet. C'est pas un accord diplomatique, c'est un accord diplomatique et technique, avec 150 pages de détails sur la manière dont le programme iranien va être gelé pendant une durée de 10 ans, 15 ans sur certaines activités, va être contrôlé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et donc, on peut dire que de ce point de vue-là, les négociateurs occidentaux et russes et chinois, puisque c'était un processus qui a impliqué non seulement trois Européens, britanniques, français, allemands, mais aussi les Américains, les Russes et les Chinois, donc vraiment les acteurs clés de la communauté internationale, ont obtenu de l'Iran un vrai gel contrôlé de ses activités nucléaires sensibles. En même temps, c'est un compromis. Et c'est en cela qu'on peut dire, comme expert de question de non-prolifération, qu'il est imparfait, puisque on n'a pas le démantèlement de ses activités. L'Iran conserve un certain nombre de centrifugeuses qui lui permettent de continuer à mener des activités d'enrichissement de l'uranium en nombre plus limité que leur quantité actuelle à terme. Mais malgré tout, cette capacité demeure. De ce point de vue-là, l'Iran a obtenu le fait que ces activités d'enrichissement soient reconnues par la communauté internationale, ce qui n'était pas le souhait initial des négociateurs français, américains ou britanniques. Et par ailleurs, évidemment, c'est un accord qui est vulnérable politiquement. Je pense qu'on en parlera du fait des réticences d'une partie de la classe politique américaine, des critiques des ultra-conservateurs en Iran, mais aussi vulnérable dans la mesure où c'est un accord, comme je le disais, d'une grande complexité et dont la mise en œuvre va s'étaler sur 10 ans. Donc il y aura inévitablement de multiples crises dans la mise en œuvre de cet accord. Des crises qui peuvent être, je dirais, pas graves, des retards dans la mise en œuvre de tel ou tel aspect de l'accord, d'autres qui peuvent évidemment dégénérer et amener à une rupture de la logique portée par l'accord de ce gel durable des activités nucléaires iraniennes. Donc on est dans quelque chose qui est une bonne nouvelle, et de ce point de vue-là, je soutiens l'accord, évidemment, mais qui n'est pas forcément historique au sens où ça ne résout pas pour toujours le problème nucléaire iranien.
François Hesbourg, la plupart des mesures qui sont inscrites dans l'accord sont finalement en deçà des demandes qui avaient été formulées par les Occidentaux. Alors, quelles sont les principales failles de cet accord pour vous ?
D'abord, en ce qui concerne les mesures de vérification et les mesures matérielles, elles vont généralement au-delà de ce que pouvaient espérer la plupart des Occidentaux jusqu'à une date relativement récente. Et j'ajoute à ce qu'a dit très justement Camille Grand, c'est que, bien sûr, sur un certain nombre de chapitres, il y a des durées limitées, 10 ans, 15 ans, que sais-je, mais l'engagement iranien, lui, est pérenne, et l'inspection par l'AIEA dans le cadre de ce qu'on appelle les protocoles additionnels, c'est le régime d'inspection le plus fort, lui reste en place également de façon pérenne. Et autrement dit, cet accord, bien sûr, est des éléments de compromis dans le sens où on n'a pas pu revenir en arrière à l'avant-programme nucléaire iranien. Et effectivement, en 2003, 2004, 2005, on pouvait rêver d'un Iran qui ne pourrait plus jamais faire de l'enrichissement de l'uranium. Ce rêve-là s'est avéré vain, mais dès qu'on est entré en matière dans la négociation au cours des dernières années, et on a, pour parler très clairement, on a eu ce qu'on voulait. Et j'ajoute une chose vis-à-vis des critiques de l'accord. Et imaginez un instant que ce type d'accord ait existé à l'époque où Israël avait commencé ses travaux nucléaires. Jamais Israël n'aurait pu acquérir l'arme nucléaire si un tel accord avait existé. Et pour moi, cela suffit à relativiser les critiques, non pas des spécialistes israéliens, qui sont en général assez favorables à l'accord, mais les critiques purement politiques de la part du premier ministre israélien. Donc, par rapport à son objet, qui est la non-prolifération nucléaire, très honnêtement, cet accord, il est plus que satisfaisant, bien entendu, comme il a dit. Il va falloir regarder de très près comment va se passer la mise en œuvre. La mise en œuvre par tout un chacun, et notamment par les Iraniens, car la vulnérabilité de l'accord, elle existe aux États-Unis, vous avez déjà dit un mot, Isabelle Lasserre, mais aussi en Iran. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans la classe politique iranienne, il y a pas mal de gens qui auraient préféré que cet accord ne soit pas conclu. Et ceux-là ne vont pas rester inertes au cours des prochaines années.
On reviendra sur les conséquences de cet accord sur la prolifération nucléaire dans toute la région. Ça fera l'objet d'une deuxième partie. Mais je voudrais savoir, Camille Grand, est-ce que tous les textes en fait de l'accord ont été rendus publics? Est-ce qu'il y a des clauses secrètes? Si oui, de quel type? Il y a pas mal d'informations qui sortent en fait petit à petit au fur et à mesure depuis le 14 juillet, essentiellement dans l'enceinte du Congrès américain et probablement à des fins de propagande. Qu'est-ce qu'il en est sur ces clauses?
Alors le texte de l'accord a été rendu public à la fin de la négociation, c'est-à-dire les 150 pages de cet accord, de l'accord lui-même. Ce qui fait aujourd'hui l'objet de fuites probablement instrumentalisées, c'est un accord entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique de Vienne sur l'inspection d'un site spécifique, qui est le site de Parchin, qui est un site extrêmement sensible pour les Iraniens, puisque c'est un site militaire. Et il semble, à la lecture notamment d'une dépêche de la société de presse qui a lancé cette polémique, que l'Agence internationale de l'énergie atomique ait accepté un mécanisme d'inspection, on va dire relativement léger, dans lequel une partie du travail d'inspection est menée par les Iraniens eux-mêmes, qui conduisent des opérations de prélèvement, de prise de photos, pour le compte de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce qui a conduit à une polémique, à mon avis, un peu vaine à Washington, consistant à dire « Ah, l'accord, les Iraniens vont s'inspecter eux-mêmes ». C'est pas le cas de l'accord. D'accord, en général, les sites nucléaires iraniens vont être inspectés par des inspecteurs étrangers de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est sur le cas très particulier de Parchin, qui est un site qui a joué historiquement un rôle dans le programme nucléaire, dont on suppose qu'il a été démantelé en 2002-2003. Et donc, toute la question, c'est pour faire la lumière sur les activités passées, est-ce que l'agence allait avoir un accès complet à ce site? Voilà le thème du débat en ce moment, mais on voit bien l'instrumentalisation qui peut être faite de cet accord avec l'AIEA, qui effectivement pose un certain nombre de problèmes. On ne peut pas dire que la confiance règne avec l'Iran, et l'idée que c'est des Iraniens qui vont faire les prélèvements sur place n'est pas complètement faite pour rassurer tout le monde. Mais encore une fois, c'est sur un point très précis et un site très précis.
François Hesbourg, que va-t-il se passer concrètement si jamais le Congrès rejette l'accord le 15 septembre? Alors Obama peut contre-attaquer en mettant son veto, puis les députés peuvent à nouveau dépasser ce veto s'ils arrivent à réunir une majorité des deux tiers. Est-ce que c'est envisageable selon vous?
Alors, il y a évidemment deux scénarios. Le premier scénario, qui n'est pas sans conséquences, c'est celui où le Congrès rejette, Obama impose son veto et le Congrès ne parvient pas à surmonter le veto. Et évidemment, c'est du point de vue de la pérennité de l'accord, c'est mieux que son rejet pur et simple. mais cela posera des problèmes en matière de levée de certaines des sanctions américaines. Certaines des sanctions sont sous la supervision du Congrès, et évidemment, si le Congrès, de son point de vue, a rejeté l'accord, à ce moment-là, il y aura des difficultés. Mais le second scénario est bien plus embêtant, c'est effectivement celui du rejet par le Congrès, du veto d'Obama, et le veto lui-même battu en brèche. Il faut les deux tiers des voix, de la Chambre des représentants et du Sénat, pour outrepasser le veto du président. Ça suppose qu'une bonne partie des voix démocrates manque à Obama au Congrès. Jusqu'à il y a une quinzaine de jours, j'aurais dit il y a très peu de chances pour que ça puisse se passer. Mais on est dans un contexte pré-présidentiel aux États-Unis. La polarisation sur ce sujet est incroyablement forte. Et le Congrès n'a jamais brillé au cours des dernières années aux États-Unis par son traitement dépassionné de la politique étrangère. Hein, à peu près tout, est regardé à travers le prisme idéologique et partisan intérieur. Je n'exclus pas que la barre des deux tiers soit, le cas échéant, franchie. Un petit peu à la manière de ce qui s'était passé en 1919, quand les États-Unis avaient rejeté leur entrée dans la Société des Nations, avec toutes les conséquences que l'on connaît pour l'Europe pendant les années 20 les années 20 et 30 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.
Et dans ce cas précis, quelles en seraient les conséquences?
Il n'y a pas d'accord.
Quelles en seraient les conséquences?
Il n'y a pas d'accord.
Oui, quelles seraient les conséquences de
Les conséquences, c'est que les Iraniens tireront leurs conséquences. Je ne sais pas quelles seront les conclusions qu'ils en tireront. Certains membres du Congrès prétendent que cela pourrait se traduire par un retour à la table des négociations, que les Iraniens accepteraient un deal qui serait bien entendu bien meilleur que celui qui a été conclu par cet incapable, incompétent qui est censé être le président Obama et ses équipes. Et je crains que ça ne se passerait pas du tout comme ça. L'Iran, je pense, reprendrait certains de ses travaux, notamment dans le site de Fordow. L'Iran ne se sentirait probablement plus lié par l'accord intérimaire de novembre 2013, dans lequel il avait déjà arrêté toute une série d'activités. Et bien entendu, du côté des partenaires des États-Unis dans la négociation, Chine, Russie, France, Royaume-Uni, Allemagne, la solidarité ne serait pas au rendez-vous. Je pense que la Chine et la Russie se considéreraient comme n'étant plus tenues par quelque mécanisme de négociation que ce soit. La levée des sanctions de ce côté-là serait immédiate. Et du côté européen, je n'ose pas imaginer quelle serait la tension qui régnerait entre Washington, d'une part, Paris, Londres et Berlin, de l'autre côté. Je n'ose pas imaginer pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, jusqu'à présent, il n'y avait pas trop lieu de l'imaginer. Mais dès lors qu'on est dans cette dynamique aux États-Unis, il va peut-être falloir commencer à réfléchir à ce risque. Je ne le mets pas à 50%, je le mets à 25-30% d'un veto qui serait surmonté par le Congrès, mais c'est déjà beaucoup, c'est déjà trop.
On va reprendre cette conversation dans deux minutes avec Sami Cohen. Vous êtes bien sur France Culture et vous écoutez Une semaine dans le monde. On se retrouve dans quelques instants après une pause musicale. Je vous laisse écouter Manoto de la chanteuse iranienne Ghazal Shakeri.
Mm-hmm. شنیدیم در پامنت و به تو نقش و به تو صورت به یکی جامنت و خوش و فارغ خرافات پریشان منو تو بی منو تو جمع شدیم از سر
de retrouver Antoine Dulster pour son portrait de la semaine consacré au ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, diplomate de haut vol. C'est un fin connaisseur des États-Unis. Il semble avoir la confiance du guide suprême Ali Khamenei, mais à Téhéran, le camp conservateur se méfie de sa politique de la main tendue à l'Occident.
L'histoire retiendra peut-être de lui une image, celle d'un homme visiblement fatigué mais souriant, s'adressant aux journalistes depuis le balcon du palais Kobur à Vienne, le matin du 14 juillet 2015. Il brandit un texte. C'est le signal donné au monde que l'accord sur le nucléaire iranien est signé. À 55 ans, Mohammad Javad Zarif connaît une victoire. La presse internationale lui tresse des couronnes, parfois le compare même à Kissinger, voire Talleyrand, reconnaît en tout cas en lui l'un des principaux architectes de cet accord. Le 21 juillet, quelques jours après la signature, une partie peut-être plus délicate encore commence. Il vient défendre le texte devant son parlement à Téhéran, en prenant la parole face à une majorité de députés conservateurs sceptiques depuis le début, devant ce rapprochement historique avec Washington. Tout accord est un marchandage, leur dit-il en substance, mais l'Iran a bien obtenu un accord équilibré avec les pays occidentaux. Des paroles rassurantes pour l'aile la plus conservatrice du Parlement. De fait, le discours du ministre n'est pas suivi d'un vote. Ce jour-là, mais l'enjeu n'est pas simplement symbolique. De nombreux députés dénoncent depuis le début sa politique de la main tendue vers l'Occident. Ils se méfient aussi de ce ministre coupable à leurs yeux de trop bien connaître l'Amérique, le grand Satan, l'ennemi de toujours. Et il est vrai que Mohammad Zarif est bien l'un des meilleurs connaisseurs des États-Unis que l'Iran ait connu ces dernières années. Il y a vécu et travaillé pendant de nombreuses années, d'où une maîtrise parfaite de la langue anglaise. Mais l'homme ne se dit pas pour autant occidentalisé. Dans ses mémoires publiées il y a 2 ans, il confie ne jamais s'être intégré à la société américaine, ne pas boire d'alcool et ne jamais serrer la main des femmes. Des détails qui sonnent comme autant de gages à une opinion publique iranienne conservatrice, mais qui traduisent bien la complexité de cet authentique produit du régime des mollahs, qui est convaincu des bénéfices que son pays pourrait tirer de la fin de son isolement. Son premier contact avec l'Amérique remonte à l'adolescence. Il débarque à San Francisco en 1977 à 17 ans pour étudier les relations internationales. Ses parents, opposés aux idées révolutionnaires, pensent peut-être l'éloigner du climat très agité de Téhéran à cette époque. Peine perdue, l'étudiant participe à la révolution islamique, mais depuis les États-Unis. Avec un groupe d'activistes, il milite même pour le remplacement du personnel consulaire iranien pour en expurger les éléments pas assez islamiques. Il est repéré par les nouvelles élites iraniennes et embauché à 19 ans au consulat général de San Francisco. Puis ce sera la représentation iranienne à l'ONU, dont il sera d'ailleurs ambassadeur des années plus tard. La carrière de Zarif est donc lancée, sa connaissance précoce des arcanes diplomatiques lui assure une place de premier plan les années qui suivent dans les négociations les plus délicates avec les puissances occidentales et arabes. Le diplomate sait prendre des initiatives parfois audacieuses, il s'implique personnellement à plusieurs reprises pour un rapprochement avec les États-Unis, mais ses tentatives restent sans lendemain. Zarif ensuite fait aussi les frais de la politique intérieure iranienne avec l'arrivée au pouvoir de Mahmoud Ahmadinejad. Le président ultra-conservateur le débarque de son poste à l'ONU en 2007, signe que l'heure n'est plus aux négociations mais bien à l'escalade sur le dossier du nucléaire. Il devra attendre l'élection de 2 présidents, Obama et Rouhani. En 2013, il est nommé ministre des Affaires étrangères en charge des négociations sur le nucléaire. L'expérience américaine du ministre paye. Les relations avec son homologue John Kerry sont cordiales. 21 mois de discussion et un accord le 14 juillet 2015, une victoire personnelle, mais une victoire d'étape seulement, car la validation du texte dépend désormais d'enjeux de politique intérieure à Washington et à Téhéran, des enjeux qui ne sont plus du ressort du ministre des Affaires étrangères.
Merci Antoine. Sami Cohen, le gouvernement israélien a fait de la bombe nucléaire iranienne une menace existentielle pour le pays. Et aujourd'hui, certains groupes israéliens travaillent main dans la main avec les républicains américains au Congrès pour essayer de faire capoter cet accord. Quel est le pari aujourd'hui du gouvernement israélien et comment expliquez-vous aussi son inflexibilité ?
Depuis 2009 à peu près, Benjamin Netanyahu a fait de l'affaire iranienne son affaire personnelle et défendant l'idée que le nucléaire iranien serait l'équivalent de prendre le risque d'une deuxième Shoah. Il faut dire que ce risque-là n'est pas partagé en Israël par, je dirais, la plupart des grands experts en matière stratégique et ceux connaissant l'Iran pour une raison très simple, c'est que tout le monde sait, sans que ce soit dit, parce que c'est interdit d'en parler dans les médias israéliens, qu'Israël a un armement atomique, a une capacité de deuxième frappe, et que par conséquent, si l'Iran attaquait, bien entendu, Israël utiliserait sa capacité de deuxième frappe et anéantirait l'Iran de la surface de la Terre. Donc, Benjamin Netanyahu joue un jeu qui où il essaie de montrer qu'il est le grand responsable dans la lignée de Begin. Begin avait pris la décision de frapper l'Irak en 1981 pour détruire la centrale aux Irak. Il veut montrer qu'il est dans cet héritage-là. Et donc, que c'est lui qui est responsable de la sécurité d'Israël, quoi qu'il arrive. Maintenant, la question est de savoir, malgré tout, pourquoi est-ce que la plupart des experts pensent que c'est une mauvaise chose que l'Iran se dote d'un armement nucléaire. Et donc, il y a deux raisons à cela. Premièrement, c'est que les Israéliens, toutes tendances confondues, ont peur, premièrement, d'une prolifération nucléaire dans la région. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Iran se doterait d'un armement nucléaire et que l'Arabie Saoudite, l'Égypte, par exemple, et la Turquie voudraient en faire pareil, Israël se retrouverait entouré de puissances nucléaires, ce qui n'est pas une situation très confortable. La deuxième raison, c'est qu'Israël perdrait son monopole de l'armement atomique. Et là, c'est très grave, parce que tant qu'elle a le monopole de l'armement atomique, elle peut utiliser son armement atomique comme une force de dissuasion nucléaire. À partir du moment où en face, il y a un ennemi qui dispose également de l'armement atomique, la dissuasion nucléaire joue beaucoup moins. Parce que utiliser un armement atomique dans une configuration où Israël serait menacé par des forces conventionnelles dans son existence, c'est prendre le risque de recevoir une frappe en second. Et donc, c'est pour Israël, c'est un truc très grave. D'où les efforts très grands déployés aux États-Unis par le gouvernement, je dirais par le Premier ministre israélien surtout, le fait qu'il a mobilisé directement l'AIPAC, qu'il a mobilisé un certain nombre de milliardaires qui sont partis aux États-Unis pour essayer également de convaincre un certain nombre de représentants démocrates, alors que curieusement, la communauté juive est complètement déchirée parce que, d'après les sondages, la majorité d'entre eux sont plutôt favorables à l'accord et soutiennent Obama. Et donc, vous avez l'AIPAC qui est contre, la communauté juive qui est pour. Ce qui rend l'issue du 15 septembre relativement incertaine.
Oui. Alors, Sami Cohen, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, quelles sont les différentes options dont Israël peut disposer? Est-ce qu'il faut s'habituer à l'idée de vivre avec un Iran nucléaire, même si c'est dans 15 ans, continuer à faire pression sur le Congrès américain, ressortir l'option militaire sur la table? Quelles sont les options aujourd'hui?
Bon, à court terme, c'est l'option des pressions sur le Congrès américain, premièrement. L'option militaire n'est pas une option très réaliste. L'ancien Premier ministre et ministre de la Défense, Ehud Barak, a révélé hier soir au cours d'un entretien, d'une interview à la télévision israélienne, qu'entre 2010 et 2012, lui et Benjamin Netanyahu avaient décidé, étaient favorables à une frappe contre l'Iran. Et donc des réunions avaient eu lieu pendant cette période. Le chef d'état-major de l'armée à l'époque, Gabi Ashkenazi, avait dit « l'armée n'est pas prête, je vous le signale ». Et donc ils ont fait machine arrière immédiatement parce que ce serait prendre eux-mêmes directement la responsabilité de quelque chose qui pourrait tourner assez mal. Jusqu'à maintenant, la plupart des grands experts, que ce soit le chef du Mossad, les chefs militaires, ne sont pas favorables et savent très bien qu'une frappe pareille coûterait très cher à Israël, premièrement. Elle repousserait peut-être de 2 ans le programme nucléaire iranien, démantèlerait complètement, alors là, tout le jeu, tout l'accord qui a été conclu jusqu'à maintenant. Reste la troisième option, au cas où l'Iran se doterait un jour d'un armement nucléaire, que faire ? Ben, probablement ce que certains experts disent en tête à tête. Ils le disent pas évidemment publiquement à la radio, à la télévision et dans les médias. C'est qu'un jour, peut-être, l'Iran et Israël devraient mettre en place un téléphone rouge comme il existe entre la Russie, en tous les cas du temps de la guerre froide certainement, entre l'Union soviétique et les États-Unis.
Camille Grand, vous vouliez répondre, mais j'ai aussi une question à vous poser, alors allez-y.
Non, mais peut-être un mot sur, je crois que ce qui est très difficile pour les Israéliens, c'est finalement l'abandon de ce qu'on appelle la doctrine Begin, qui était que les Israéliens s'étaient mis en tête d'empêcher tous les États de la région de se rapprocher de trop près du seuil nucléaire. Il l'avait fait avec l'Irak, c'est le bombardement des Irak en 1981. Il l'avait fait avec la Syrie, c'est le bombardement du site nucléaire d'Al-Kibar en construction. Et finalement, avec l'Iran, compte tenu de la dispersion des sites, l'option militaire était, comme Sami Cohen vient de l'expliquer, extrêmement difficile à mettre en œuvre. Il s'accommode assez mal du fait que la communauté internationale, États-Unis en tête, est prête à vivre avec un Iran non pas nucléaire, mais avec un Iran qui a des capacités d'enrichissement et donc qui est plus près du seuil nucléaire que n'ont été aucun autre État de la région, à part Israël, bien sûr.
François Hesbourg.
Oui, j'ajouterais, Sami Cohen a dit très justement que la plupart des experts, anciens responsables du Mossad ou de Tsahal, acceptaient de vivre avec l'accord et n'étaient pas du tout sur la ligne de Netanyahou. C'est vrai, et j'en vois pour meilleure preuve le cas d'Amos Yadlin, l'ancien chef des renseignements militaires israéliens, mais surtout le chef de la mission conduite contre l'Irak et le chef de la planification opérationnelle de la destruction du réacteur nord-coréen en cours de construction en Syrie en 2007. Donc voilà un homme qui, par rapport à la doctrine Begin, n'avait visiblement aucun problème, puisque c'est lui qui l'exécutait. Ben, il était contre l'option militaire. Et donc, il faut se poser la question mais pourquoi est-ce que Netanyahou dépense-t-il autant de crédits politiques contre cet accord ? Et Sami Cohen suggérait que Israël ne voulait pas perdre son monopole, qu'Israël craignait la prolifération. Choses qui sont peut-être vraies, mais justement, l'accord pour une bonne dizaine d'années permet à Israël de vivre plutôt mieux de ce point de vue-là qu'avant. Alors pourquoi est-ce que Netanyahou fait ce qu'il fait ? Ben, je crois basiquement parce que ça permet, notamment aux États-Unis, d'éviter de parler d'autre chose. Embêter Obama, embêter, à occuper le tapis avec l'affaire iranienne au Congrès, ça permet d'éviter de parler du processus de paix, des Palestiniens, de la colonisation, de toutes ces choses incroyablement désagréables pour une coalition fragile qui est celle de Netanyahou et qui repose en grande partie sur l'absence totale de toute évolution dans le sens du processus de paix. Donc j'ai une lecture entièrement cynique de l'attitude de Netanyahou dans cette affaire.
Sami Cohen, vous aviez quelque chose à ajouter? Après, je voudrais qu'on parle de la prolifération.
Dans la continuité de ce que François Hesbourg vient de dire, il faut dire que Benjamin Netanyahou prend quand même des risques considérables dans son jeu consistant à essayer de déstabiliser Barack Obama. Il n'est pas sûr. Et on voit petit à petit, déjà dans la communauté juive, des voix, un mouvement qui s'élève contre la politique très droitière de Benjamin Netanyahou. Il n'est pas sûr que les relations israélo-américaines s'en sortent complètement indemnes de ce bras de fer. Il ne faut pas oublier que c'est les États-Unis quand même qui garantissent 3 milliards de dollars à Israël tous les ans, et qui garantit sa sécurité, parce que il faut voir à plus long terme, dans la mesure, dans la perspective d'un Iran proche du seuil nucléaire, la garantie la plus efficace sera celle qui sera apportée par les États-Unis.
La peur de la prolifération nucléaire dans la région, c'est quelque chose qui est partagé par les Israéliens et par les Français. Alors qu'à Migrant, cet accord à la fois imparfait et indispensable est-il de nature à réellement limiter la prolifération nucléaire au Moyen-Orient? Est-il suffisamment robuste pour convaincre les adversaires sunnites de l'Iran chiite, dont on a parlé tout à l'heure, Arabie Saoudite, Égypte et Turquie, de ne pas se lancer à leur tour dans la course atomique? Ou se peut-il au contraire que l'accord, malgré ses bonnes intentions, ne provoque finalement exactement ce qu'il devait empêcher, c'est-à-dire une course à l'armement nucléaire au Moyen-Orient?
Alors, on est devant deux scénarios très, très différents. C'est-à-dire qu'il y a un scénario optimiste, qui est celui porté par les négociateurs, porté par les États-Unis, qui consiste à dire le gel imposé au programme nucléaire, aux activités nucléaires iraniennes, le grand contrôle qui est imposé à ces activités, va être de nature à rassurer la communauté internationale et la plupart des acteurs régionaux, ce qui va enrayer ce qu'on appelle une cascade de prolifération dans la région, qui aurait été inévitable si l'Iran avait continué à se rapprocher du seuil nucléaire militaire par le stockage de matières d'uranium enrichi, par le développement de ses activités dans le domaine du retraitement et ainsi de suite. C'est le scénario vertueux, on peut dire, mais qui repose sur une mise en œuvre exemplaire de l'accord et sur une chose qui n'est pas la première donnée de la région, qui est une grande confiance entre tous les acteurs de la région. Il y a un deuxième scénario qui est plus pessimiste, qui consiste à dire que beaucoup de pays de la région, et notamment les puissances sunnites, on parlait d'Israël à l'instant, considèrent que parce que cet accord a en quelque sorte entériné une capacité minimale iranienne, que donc à terme le risque demeure que l'Iran se relance son programme nucléaire, soit à la faveur d'une crise qui mettrait l'accord par terre, soit au-delà de l'accord dans 10 ou 15 ans quand une partie des contrôles se seront relâchés. Et donc il faut pour ces pays se doter d'une sorte de stratégie de pour faire face à cette éventualité. Plusieurs pays de la région ont lancé des programmes nucléaires civils très ambitieux. C'est le cas des Émirats Arabes Unis, c'est le cas de l'Arabie Saoudite, c'est le cas de la Turquie, et pourraient, dans ces conditions, avoir des arrière-pensées militaires. Moi, je dirais, pour essayer de donner mon sentiment sur ces deux branches de scénarios très contradictoires, que le pire n'est jamais sûr et qu'il ne faut pas annoncer une cascade de prolifération alors qu'on vient d'obtenir un accord de non-prolifération. Mais qu'il conviendra évidemment de mener un effort, une veille constante pour éviter que ces inquiétudes des uns et des autres ne se transforment en embryon de programme nucléaire fondée sur des calculs pessimistes sur la bonne mise en œuvre de l'accord avec l'Iran.
Le pire n'est jamais certain, mais François Hesbourg, comment fait-on pour convaincre ces pays de ne pas se doter à leur tour de
En fait, la réelle politique. Et les Saoudiens, lorsque l'accord a été annoncé, n'ont visiblement pas aimé ce qui est arrivé. Et certains commentateurs saoudiens évoquaient déjà la possibilité de faire de l'enrichissement, comme les Iraniens, après tout, puisqu'ils ont le droit d'en faire dans le cadre de l'accord. Et la réaction des puissances négociatrices, pas seulement des États-Unis, c'était, écoutez, chers amis saoudiens, et si vous voulez vraiment accepter les contrôles et les inspections auxquels les Iraniens sont dorénavant soumis dans le cadre de vos éventuelles ambitions nucléaires, you're welcome, hein, vous pouvez le faire. Si c'est ça que vous voulez, si vous voulez vivre aussi encadré que les Iraniens, vous n'avez qu'à faire comme ça. Et deuxième et dernière chose, toujours dans la réelle politique, les Saoudiens pensaient pouvoir compter sur la bombe pakistanaise qu'ils ont contribué à financer. Or, les Saoudiens, en lançant imprudemment une guerre au Yémen, se sont débrouillés pour rompre en grande partie le lien avec le Pakistan, qui a refusé de soutenir l'Arabie saoudite dans cette guerre, qui est en fait dirigée symboliquement et dans une certaine mesure pratiquement contre l'Iran et contre les intérêts iraniens. Donc les Pakistanais eux-mêmes ont pris du champ. Dans ces conditions, les Saoudiens, même s'ils en avaient l'envie, ne vont pas trouver très commode de s'opposer à 99,9% de la planète dans ce domaine, dans le domaine nucléaire.
Alors, qu'est-ce qui a changé depuis la signature de cet accord mi-juillet ? Barack Obama espère que le rapprochement avec Téhéran finira par se traduire par un assouplissement des politiques de l'Iran au Moyen-Orient, notamment en Syrie et en Irak. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les lignes bougent ? Et si oui, lesquelles sur cette question, Sami Cohen ?
Écoutez, je crois qu'il y a une nette dissociation entre l'accord nucléaire iranien et la politique iranienne au Proche-Orient, vis-à-vis de la Syrie, d'Irak, vis-à-vis du Hezbollah également. Ce sont deux sphères relativement distinctes. Je crois que Barack Obama et les puissances qui ont négocié avec l'Iran ont bien compris qu'ils n'obtiendront pas d'Iran une modération sur ces terrains-là. Et donc, ce qui rend d'ailleurs Israël extrêmement amer, parce que finalement, ils disent aux Américains, voilà, vous avez fait un certain nombre de concessions, mais vous n'avez rien obtenu sur le plan des conflits du Proche-Orient. C'est-à-dire, vous n'avez pas pu obtenir que l'Iran réussisse à modérer la Syrie et le Hezbollah. Et donc, maintenant, du point de vue israélien, disent-ils, nous avons à la fois, nous aurons un Iran plus fort, qui va utiliser les ressources financières qui vont être récupérées suite à la levée des sanctions et qui seront en partie fournis à des groupes qui sont sous le contrôle.
Oui, ce ne sera pas pour la sécurité sociale.
Non, pas tellement. Et ce serait plutôt pour les forces qui soutiennent genre Hezbollah ou d'autres au Yémen.
Camille Grand, est-ce que les lignes peuvent bouger à votre avis ?
Moi, je crois que c'était une forme de naïveté, hein, qu'une partie de l'administration américaine, pas tous, mais une partie de l'administration américaine a essayé de vendre l'accord nucléaire comme étant une sorte de système qui allait rebattre l'ensemble des cartes régionales et où tout le monde allait se retrouver dans une grande amitié pour lutter contre l'État islamique. La réalité du Moyen-Orient, c'est que on peut avoir des adversaires communs, mais les amis de mes amis ne sont pas forcément mes amis, et que les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis non plus. Et donc, on est dans un dispositif où, certes, le fait que le dossier nucléaire soit un petit peu mis de côté et en partie réglé, il faut quand même dire les choses, est une bonne nouvelle pour la sécurité et la dynamique de prolifération au Moyen-Orient, mais ne résout en rien l'ensemble des autres dossiers. Et là, il y avait franchement une forme de naïveté de croire qu'on ouvrait un cercle vertueux. On verra dans la durée si l'idée que tout ça va permettre une ouverture de l'Iran qui va soudainement devenir plus favorable va se réaliser progressivement. Ça, on ne peut pas insulter l'avenir. Mais du jour au lendemain, ça ne s'est pas passé. Et au contraire, on a même eu un certain nombre de signaux des autorités iraniennes, des dirigeants iraniens pour rappeler la pureté révolutionnaire de la révolution islamique.
L'avenir le dira et nul doute que nous consacrerons une ou plusieurs émissions encore à l'Iran dans les semaines et dans les mois qui viennent.
Une semaine dans le monde, Isabelle Lasserre.
Et maintenant, direction l'Ukraine. Après une pause estivale, les combats ont repris à l'est du pays entre l'armée ukrainienne et les séparatistes soutenus par la Russie. Depuis le 10 août, les rebelles pro-russes poussent leur avantage vers le sud et vers l'est, où ils ont cependant dû affronter une réponse musclée de l'armée ukrainienne. Ils accentuent la pression contre Mariupol, près de la mer d'Azov, la dernière ville de l'est encore contrôlée par le gouvernement de Kiev, et que les séparatistes ont depuis longtemps désigné comme une prochaine cible. Les observateurs de l'OSCE sont également régulièrement visés par des tirs de la part des forces pro-russes. Le cessez-le-feu de Minsk, signé en février, n'a jamais vraiment été appliqué. Les armes lourdes et les combattants continuent à franchir la frontière depuis la Russie. Face à cette nouvelle escalade militaire, l'OTAN a exprimé il y a deux jours sa grave préoccupation. François Hollande, Angela Merkel et le président ukrainien Petro Poroshenko se retrouveront lundi à Berlin pour évoquer la situation et tenter de raviver les accords de Minsk. Mais alors que le gouvernement de Kiev lutte pour réformer son pays et subit des pressions pour amender sa constitution et trouve un statut pour les provinces de Donetsk et de Lugansk, certains redoutent que l'Occident soit en train de baisser la garde face à Vladimir Poutine, du moins tant que le conflit demeure de faible intensité. Déjà, l'annexion de la Crimée n'est quasiment plus évoquée par les diplomates européens. Et si Vladimir Poutine pouvait se montrer plus coopératif dans les dossiers syriens, iraniens et nord-coréens, l'Europe, débordée par la multiplication des crises au Moyen-Orient, pourrait finalement se satisfaire d'un conflit gelé en Ukraine. Reste à savoir si le président russe y a ou non intérêt lui aussi. Pour en parler, Alexandra Goujon, vous êtes politologue, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, maître de conférences à l'Université de Bourgogne et à l'Institut d'études de politique de Paris. Vous venez de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Michel Elchaninov, agrégé de philosophie, spécialiste de philosophie russe, rédacteur en chef adjoint de Philosophie Magazine et auteur du formidable Dans la tête de Poutine, publié en 2015 chez Actes Sud. Bonjour.
Bonjour.
Camille Grand, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, et François Hesbourg, directeur de l'International Institute for Strategic Studies. Vous êtes restés avec nous. Merci. Alors, Alexandra Goujon, quelle est la nature de cette nouvelle escalade militaire qui intervient après plusieurs semaines d'un calme relatif? Assistons-nous à une offensive d'envergure ou s'agit-il seulement d'escarmouches précédant, comme c'est souvent le cas, la reprise des négociations diplomatiques?
Alors, il est toujours assez difficile de savoir exactement la nature des conflits qui peuvent apparaître ici ou là dans l'est de l'Ukraine. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a des échéances à venir qui sont importantes. En dehors des négociations diplomatiques, il y a des échéances locales. C'est-à-dire que selon les accords de Minsk de février 2015, il était prévu que d'ici la fin 2015, l'Ukraine adopte une loi sur la décentralisation, qu'elle fasse des amendements constitutionnels importants qui accordent un statut spécifique aux républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Donc on a cette échéance de fin 2015 avec des élections locales qui sont prévues en Ukraine le 25 octobre. Et une loi sur la décentralisation qui vient d'être, on va dire, adoptée, enfin, comment dire, approuvé par la Cour constitutionnelle et qui doit être adopté prochainement, fin août, en Ukraine, par le Parlement ukrainien, mais avec une majorité qualifiée, ce qui reste difficile à obtenir aujourd'hui pour le président Poroshenko. Et cette modification constitutionnelle, finalement, elle est aussi poussée par les Occidentaux qui veulent, en quelque sorte, montrer qu'il y a une bonne volonté du côté du pouvoir ukrainien pour aussi éventuellement avoir des atouts supplémentaires dans les négociations avec Poutine. Mais ce qu'il y a derrière, et là on le voit, c'est cette question du statut spécial. Est-ce qu'on va vers une autonomie importante de ces régions? C'est ce que veut, en tous les cas, est-ce que soutient par exemple le pouvoir russe et les séparatistes. Là, l'Ukraine s'orienterait plutôt vers un statut spécial temporaire de quelques années et une autonomie qui soit un petit peu plus limitée, même si on a une autonomie sur la police ou par exemple sur la justice. Mais en tous les cas, peut-être pas forcément une autonomie en matière de politique extérieure, ce qui était un des arguments notamment de Vladimir Poutine dans cette histoire. La question qu'on peut se poser par rapport à ce conflit, à ce qui se passe en ce moment autour de Marioupol, c'est cette incessante question et qui ne sera peut-être pas résolue parce qu'elle fait partie aussi de cette stratégie poutinienne qui est d'une déstabilisation qui ne se résolve pas. Et donc, quelque part, on a des périodes d'accalmie, puis des périodes de regain de tension avec Marioupol qui est depuis plus d'un an déjà en vue, notamment par rapport à cette ville industrielle importante et qui permettrait aussi aux séparatistes d'avancer, puisque, comme on le sait, aujourd'hui, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk ne recouvrent pas les entités administratives qu'étaient ces deux régions ukrainiennes. Et des deux côtés, on a quelque part des tensions, c'est-à-dire qu'à la fois du côté séparatiste, il y a toujours ceux qui en veulent plus, ceux qui veulent récupérer du territoire, ceux qui sont peut-être un petit peu plus pragmatique. Et du côté ukrainien, c'est la même chose. On a quand même des gens extrêmement mobilisés par rapport à cette guerre. On en parle assez peu, mais on a quasiment, en fait, un état de substitution avec les volontaires, l'aide humanitaire. Il y a des gens qui ont consacré toute leur vie aujourd'hui à cette aide humanitaire. Et là aussi, le président qui est un peu Porochenko, qui est coincé entre les Occidentaux qui voudraient qu'il soit justement beaucoup plus dans la négociation, et puis une partie de l'opinion publique qui, au contraire, ne veut pas céder ces territoires, se séparer ces territoires est-ukrainiens.
Michel Elchaninov, vous qui rentrez dans la tête de Vladimir Poutine, est-ce que c'est aussi votre analyse? Quel but le président russe poursuit-il en ce moment? Quelle est sa stratégie? Et d'ailleurs, est-elle figée ou évolue-t-elle au gré des politiques occidentales ou des impératifs économiques?
Alors, je crois que sa stratégie, effectivement, c'est de déstabiliser durablement l'Ukraine et donc de garder le feu sous la marmite sans la faire déborder en permanence, mais en tout cas en sachant que c'est lui qui a le bouton, et donc il peut la faire déborder quand il veut en jouant sur évidemment l'influence qu'il a sur la situation. Je pense surtout que sa stratégie évolue d'elle-même maintenant, et c'est ça qui devient peut-être difficile pour lui, c'est-à-dire qu'il a allumé en Russie le feu de l'exaltation patriotique ou nationaliste. Alors il y a eu évidemment l'annexion de la Crimée, le fameux slogan « La Crimée est à nous », Krim Nash, en deux mots, qui lui a pratiquement servi de politique pendant un an, disons de mars 2014 à mars 2015. On a célébré ce Poutine rassembleur des terres russes, continuateur de la grande tradition impériale pré-bolchévique et communiste, etc. Donc on a exalté ça. Ensuite, il a fallu trouver un autre combustible à ce nationalisme, qui ont été les célébrations en grande pompe de la victoire sur le nazisme le 9 mai, donc le 9 mai 2015, cette gigantesque mise en scène pour célébrer là encore le patriotisme russe, et puis pour critiquer l'ingratitude des pays occidentaux vis-à-vis de ce peuple libérateur. Le problème, c'est que maintenant, il faut toujours trouver du combustible à ce nationalisme, et que le combustible parfois vient à manquer, donc on ne sait pas quel sera le prochain événement mis en valeur par le Kremlin pour justement continuer à faire vivre cette fièvre nationaliste. D'autant que le problème qui apparaît évidemment de plus en plus, c'est la crise économique dans laquelle est plongée la Russie, dans laquelle elle s'enfonce de plus en plus. Je vous rappelle que au second trimestre, au deuxième trimestre 2015, le PIB a reculé à nouveau de 4,6% par rapport à la même période de l'année dernière, que le rouble en 12 mois a perdu 43% de sa valeur face au dollar par rapport à l'année dernière. Bref, on est dans une situation qui s'aggrave. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'il est, Poutine a fait une visite en Crimée en début de semaine, du 17 au 19 août. Il a passé 3 jours là-bas. Et ces contradictions de sa politique, d'un côté une exaltation nationaliste et de l'autre côté, la réalité d'une crise, se sont exprimées durant cette visite. C'est-à-dire que les médias occidentaux ont souvent retenu de cette visite la plongée de Vladimir Poutine en bathyscaphe, encore une action d'éclat.
Très impressionnante.
Voilà, du président Superman qui est allé approcher un vaisseau byzantin du 10e, 11e siècle. Le prétexte et l'idée, c'était que Vladimir Poutine essaye de rappeler au monde entier que la Crimée était russe bien avant, évidemment, le 18e siècle, bien avant la présence des Tatars de Crimée, mais d'après lui et d'après l'historiographie officielle aujourd'hui en Russie, qu'elle était russe donc dès le 10e, 11e siècle. Et il l'a dit durant sa conférence de presse, je suis venu rappeler au monde entier que l'État russe était déjà présent ici en Crimée au 10e, 11e siècle et avait des rapports avec Byzance. Mais ce qui est intéressant, c'est que outre ce fait d'armes, il y a eu 3 séries de rencontres, une sur le tourisme. Il s'agit d'ouvrir la Crimée et la Russie tout entière au tourisme des pays étrangers. Or, il y a 2 ans, en 2013, il y a eu 6 millions de touristes en Crimée. Cette année, il y en a eu 3 millions. C'est normal, puisque la majorité des touristes étaient ukrainiens. Bref, il y a une baisse du tourisme en Crimée, et Poutine veut profiter de la baisse du rouble importante pour essayer d'amener des touristes étrangers. Alors bien sûr, c'est difficile d'attirer les touristes américains, français ou anglais. Donc, il a, dans sa conférence, dans sa réunion consacrée au tourisme, il a essayé de dire que maintenant, il voulait faire du tourisme eurasien, c'est-à-dire attirer les Chinois, les Indiens en Crimée. Première chose, donc, réalité, le tourisme est en crise, il faut le développer dans la perspective de 2018. Année de la Coupe du Monde de football qui se tiendra en Russie, il faut développer le tourisme. Principe de réalité qui s'oppose à ces rêveries nationalistes. Deuxième réunion consacrée à la question des nationalités. Vladimir Poutine a dit très clairement qu'il était hors de question de donner un statut spécial à quelque langue criméenne que ce soit. Il avait en vue évidemment les revendications des Tatars qui vivent de plus en plus mal la situation dans laquelle ils sont plongés en Crimée avec des vexations quotidiennes. Troisième rencontre, la plus étonnante, elle a eu lieu le dernier soir de la visite de Poutine, rencontre sur les questions de sécurité. Vladimir Poutine a dit que la corruption ne baissait pas en Crimée depuis l'annexion. Il a dit qu'il y avait eu 1500 cas de corruption relevés, que 60 hauts responsables avaient été relevés de leurs fonctions depuis un an. Bref, que la corruption était un problème réel en Crimée, que le rêve d'une Novorossiya, c'est-à-dire d'une nouvelle Russie débarrassée de la corruption, ce qui était véritablement l'hypothèse, le rêve de ces laudateurs, que ce rêve ne fonctionne pas, qu'il y a toujours de la corruption en Crimée. Bref, ce qui est intéressant, c'est que la stratégie impériale, la stratégie de grandeur retrouvée de la Russie se heurte aujourd'hui de front à des réalités sociales, politiques, économiques, et que Vladimir Poutine ne peut pas faire comme si cela n'existait pas. Donc on est dans une situation de contradiction.
François Hesbourg, je vous ai vu lever le sourcil au mot combustible.
Oui, non, c'est effectivement le mot est tout à fait bienvenu. Hein, c'est mon sourcil se levait de façon approbatrice. Et ce qui est en train de se passer, au moins au plan économique et peut-être aussi politique, c'est la concurrence dans l'épuisement du combustible des deux côtés. Du côté ukrainien, c'est une économie qui est en effondrement. Et qui est tenu à bout de bras par les plans de sauvetage du Fonds monétaire international. Et on va arriver au bout du potentiel du côté du FMI probablement dans les premiers mois de l'année prochaine. Et ce qui va se passer après, je n'en ai aucune idée. Logiquement, l'Union européenne devrait pouvoir prendre le relais financièrement pour au moins assurer la survie économique de l'Ukraine, mais compte tenu de l'état dans lequel se trouve l'Union, je doute que cela se produise. Et du côté russe, la situation n'est pas si différente que ça. L'économie russe non seulement évolue comme cela vient d'être rappelé, Mais l'état des réserves russes n'est pas bon. Elles s'épuisent rapidement. Leur liquidité a été négativement impactée par les sanctions occidentale, donc une partie des réserves constituées par Poutine pendant les 15 dernières années ne sont pas aisément accessibles. Alors les économistes s'écharpent pour savoir de combien de temps il dispose, Poutine. Est-ce que c'est un an? Est-ce que c'est deux ans? Mais je n'en entends pas qui disent c'est trois ans. La Coupe du Monde de football 2018, c'est trois ans, hein. Et à quelle conclusion Poutine tirera-t-il de l'épuisement plus rapide que prévu de ses réserves? Est-ce que ça va l'amener à renforcer le rythme contre l'Ukraine, parce qu'il est pressé par le temps, ou est-ce que ça l'amènera à la table des négociations? Je parierais plutôt sur la première de ces hypothèses, de ces scénarios, mais évidemment, c'est l'avenir qui va dire quel va être le cas. Juste un dernier mot.
On en parle juste après la pause musicale,
Poutine,
si vous voulez
Poutine
bien.
Une seconde. Il est arrivé au pouvoir en 1998 à la suite de l'effondrement économique de la Russie de Yeltsin. Poutine risque de perdre le pouvoir s'il rejoue en 98.
Donc c'est une excellente transition. Je vous laisse en compagnie de l'artiste ukrainien Omfo et son Drimba and Bass. Bien sur France Culture et vous écoutez Une semaine dans le monde, un débat consacré à la guerre russo-ukrainienne. Alors Camille Grand, sommes-nous en train de fabriquer un conflit gelé à l'est de l'Ukraine?
C'est un des scénarios en réalité, c'est-à-dire que malheureusement l'idée d'une paix négociée qui se met en place doucement, c'est-à-dire le cercle vertueux de Minsk me paraît pas du tout le scénario le plus probable. À l'inverse, quelles que soient les velléités nationalistes, Poutine, son besoin de combustible, aucune des parties n'a intérêt à une guerre majeure en Ukraine, parce que c'est au-delà de ce que est souhaitable tant du point de vue russe que du point de vue ukrainien. Mais en revanche, finalement, on se retrouve avec deux scénarios intermédiaires, où le plus favorable, c'est celui du conflit gelé. C'est-à-dire le scénario sur le modèle de la Transnistrie en Moldavie, de la Géorgie des années 2000, c'est-à-dire une part du territoire ukrainien de facto occupée par des groupes séparatistes avec le soutien de forces russes, ou par la Russie elle-même, dans le cas de la Crimée. L'Ukraine qui n'est pas en mesure de reprendre le contrôle de ses territoires, et le conflit qui reste en quelque sorte gelé avec un statut bizarroïde, dysfonctionnel pour ces territoires qui deviennent en réalité des emprises plutôt mafieuses, souvent, plus qu'autre chose. Ça c'est malheureusement le scénario optimiste. Parce que le scénario pessimiste, c'est celui qu'on envisageait tout à l'heure, c'est-à-dire au fond d'un Poutine qui a besoin de relancer un petit peu la machine et qui préfère une Ukraine déstabilisée et en une sorte de déstabilisation perpétuelle de l'Ukraine par des flambées de violence à un conflit gelé dans lequel l'Ukraine pourrait progressivement se stabiliser, se tourner vers l'ouest et permettre en quelque sorte à Porochenko de développer un peu le pays. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui lui est relativement insupportable. C'est-à-dire l'idée d'une success story ukrainienne sur le modèle des pays d'Europe centrale, c'est le scénario le plus défavorable vu de Poutine, d'une certaine manière. Et à défaut d'une Ukraine satellite, c'est-à-dire la version Yanukovych, il préfère probablement une Ukraine en constamment déstabilisée. Donc on est devant cette hypothèse-là où on va avoir, comme on a eu au printemps dernier, hein, depuis Minsk, des moments de violence avec... on a quand même plusieurs centaines de morts depuis les accords de Minsk de cessez-le-feu. Hein. On n'est pas dans un conflit qui est strictement gelé. Et donc finalement, le conflit gelé, c'est l'option optimiste pour les mois qui viennent.
Alexandra Goujon, ça fonctionne le conflit gelé si les séparatistes sont entièrement contrôlés par Moscou. Est-ce le cas?
Oui, alors justement, la force quelque part de la stratégie de Poutine en Ukraine, c'est d'avoir déstabilisé, de soutenir les séparatistes, mais de les soutenir soit parfois de très près, je veux dire par des approvisionnements, soit de l'aide humanitaire, mais de l'approvisionnement militaire, mais parfois de pouvoir les soutenir de loin également. Et d'ailleurs, du point de vue diplomatique, il y a toujours un déni d'intervention directe. La question qu'on peut se poser, c'est cette déstabilisation, finalement, maintenant, elle peut exister presque sans lui. C'est-à-dire que les acteurs sur place font que il y a une déstabilisation du fait même des dissensions qu'il peut y avoir dans chacun des deux camps, y compris du côté des séparatistes, mais aussi du côté ukrainien, c'est-à-dire entre la frange de l'Ukraine qui dit, il y en a une partie qui le disent, pas publiquement, mais ça se dit de plus en plus à Kiev, c'est-à-dire tant pis. On abandonne ces territoires. Et puis ceux qui sont engagés depuis le début dans le combat, aujourd'hui dans la sécurisation de la frontière, etc., qui disent il est hors de question qu'on lâche le morceau. Donc de là, et Poutine, quand on parle de déstabilisation de l'Ukraine, on pense aussi à ça, à la déstabilisation du pouvoir politique, y compris donc dans l'entourage de Porochenko, qui a rassemblé autour de lui au moment le plus crucial, mais l'année dernière, mais qui là voit s'effriter ses soutiens. Et du côté séparatiste, effectivement, on peut se poser la question de savoir si ces attaques récentes sur Mariupol sont commanditées ou pas. Quelque part, après avoir mis au pouvoir ces séparatistes, je veux dire, la Russie n'est pas nécessairement obligée de les commander du matin au soir. Et d'ailleurs, ce que l'on constate à travers des témoignages, notamment de soldats ukrainiens, c'est que des fois, le conflit naît de tirs comme ça, de chaque côté de cette frontière qui est mobile. Et donc, même si on peut penser cela, si même un jour Poutine disait plus de soutien aux séparatistes, il n'est pas sûr que l'Ukraine arrête d'être déstabilisée, qu'il n'y ait pas des mouvements de guérilla ici ou là. Et donc la question aussi effectivement de l'autonomie des acteurs, elle est importante de ce point de vue-là.
Michel Eltchaninov, vous êtes d'accord avec Alexandra Goujon. Et est-ce que vous pensez, vous, de manière générale, que Vladimir Poutine a un intérêt à geler le conflit, à conserver un conflit gelé?
Je pense qu'il a intérêt à le garder pas totalement gelé, dans le sens où il y a quand même un argument qui est très important, je trouve, c'est que la situation peut lui échapper, comme vient de le dire Alexandra Goujon, et qu'effectivement les séparatistes peuvent jouer eux-mêmes, mais Vladimir Poutine a besoin de garder cette flamme qui peut lui échapper à tout moment. C'est-à-dire qu'on est dans un paradoxe. Poutine, pour être populaire en Russie et dans le monde, comme le représentant de celui qui ne se soumet pas au système international, donc qui est l'insoumis du monde aujourd'hui, a besoin de ces conflits, a besoin de ces élans nationalistes, et en même temps, ils peuvent lui échapper. Et c'est exactement ce qui se passe avec son peuple. C'est-à-dire qu'il a essayé de soulever son peuple autour de cette exaltation, de cette fièvre. Ça peut lui échapper aussi à tout moment. On ne sait pas qui a tué l'homme politique Boris Nemtsov. Il est possible que ça soit des éléments nationalistes incontrôlés.
Au printemps de l'année dernière.
Au début de l'année dernière, de 2015. On ne sait pas si Poutine est indirectement responsable de ce dont il a besoin. Et donc, ce qui est terrible, je trouve, et ce qui me fait moi pencher pour la solution pessimiste qu'évoquait François Hesbourg tout à l'heure, c'est que Vladimir Poutine, de plus en plus, agit sur l'Ukraine, sachant que cela peut lui échapper, et en plus a dressé l'Occident comme l'ennemi principal de la société russe, de ce qu'il appelle la civilisation russe. Et donc, c'est répété tous les jours par la télévision, c'est relayé par tous les hommes politiques, etc. Donc, l'Occident est devenu l'ennemi. Et c'est vrai qu'avec cette déstabilisation d'une société par la création d'un ennemi global, il y a des risques de déstabilisation en permanence. On a besoin, Vladimir Poutine a besoin de déstabilisation, et c'est ça qui rend son règne, entre guillemets, inquiétant pour l'avenir.
Et jusqu'où cette démarche peut-elle aller ?
Écoutez, il y a quelques jours, le président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, Sergueï Narychkine, a publié un papier très étrange en disant que le mois d'août était le mois de déclenchement des grandes guerres et qu'il fallait craindre une provocation américaine. Alors, évidemment, tout le monde, la rumeur a commencé à partir, a été relayée d'ailleurs par la presse occidentale, américaine, anglaise, française, etc. Mais on en est là. On en est dans une situation devient de plus en plus incontrôlable dans le sens où on se met à faire des prophéties qui peuvent devenir autoréalisatrices. Donc il y a toujours des risques de dérapage. C'est-à-dire que la Russie, multipliant les provocations militaires, multipliant les incursions dans des zones où elle ne devrait pas se trouver, etc., multiplie les risques de brusque intensification du conflit.
Camille Grand, vous avez droit à trois mots.
Non, ce qui est intéressant, c'est de voir la surréaction des Russes au moindre mouvement occidental. Les Américains annoncent qu'ils vont déployer 150 blindés dans des dépôts sans mettre de troupes à côté. Et Poutine annonce une modernisation des forces nucléaires stratégiques spectaculaire. Donc on a ce jeu rhétorique qui finit par effectivement être assez inquiétant.
Inquiétant. Une semaine dans le monde se termine. Merci à vous d'être restés avec nous. Un grand merci à nos invités Alexandra Goujon, Michel Elchaninov, Camille Grand, François Hesbourg et Samy Cohen. Cette émission d'Isabelle Lasserre a été réalisée par Philippe Baudouin avec la collaboration d'Antoine Dulster et de notre stagiaire Marie Mougin. À la technique, Emmanuel Morse d'Incan. Vous pouvez la réécouter ou la podcaster sur le site de France Culture. www.franceculture.fr. Dans quelques instants, vous retrouverez les têtes chercheuses de Toufik Hakem. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve samedi prochain pour une autre semaine dans le monde.